Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. RMC,
entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, c'est une dernière journée de top 14 de folie qui nous attend le week-end prochain pour savoir qui rejoindra en phase finale le Stade Toulousain, le Stade Français ou encore Toulon et l'UBB qui ont tous les quatre validé ce week-end leur billet pour la suite de la compétition. Parmi les clubs qui restent sous pression et encore dans l'incertitude, il y a notamment le Racing, longtemps leader du championnat mais dont les résultats en dents de scie depuis le mois de janvier vont contraindre joueurs et dirigeants franciliens à 80 dernières minutes angoissantes. Samedi prochain sur la pelouse du Stade Rochelet qui n'est pas assuré lui non plus de disputer les play-offs. Bref, c'est un match tendu qui attend les deux équipes. On vous expliquera dans quelques minutes les tenants et aboutissants de cette rencontre au couteau et de cette dernière journée en général. La saison du Racing dont nous allons parler avec Laurent Travers qui a troqué cette saison son survêtement de coach, enfin ça fait un moment qu'il avait abandonné le survêtement, pour le costard de président du directoire du Racing. Avec lui, nous allons évoquer la situation de son club, faire un premier bilan de la saison, parler de son successeur l'anglais Lancaster et se tourner vers l'avenir. Pour interroger Laurent, je sais devoir compter sur mes fidèles poteaux que sont Denis Charvet qui en son temps a porté aussi le mythique maillot ciel et blanc. Mon Denis, on était jeunes, tu étais jeune, tu étais beau.
6 ans, hein.
Six ans.
C'est pas rien.
La découverte de Paris. Mais je suis showbiz.
Ouais, mais en même temps, j'adorais ce club quand j'étais à Toulouse. Ça me faisait un peu rêver. Quand je suis allé, j'ai adoré parce qu'il y a, il y a un certain standing, il y a une certaine élégance.
C'est un peu la classe, quoi.
Ça correspond
bien à Denis Charvet.
Non, mais ça me plaisait vraiment. Et puis je pense que Toto doit penser la même chose. Toto qui est Laurent Travers.
Évidemment, on va l'accueillir dans un instant. À nos côtés également, Wilfried Templier qui lui n'a jamais porté le maillot du Racing, mais qui va trembler également samedi prochain.
Hein oui, c'est vrai, il y a La Rochelle, il y a La Rochelle Racing. Mais il y a plein de choses, hein, on va en parler. Il y a plein d'endroits, il y a le feu partout. Là, On verra ça, hein, Bayonne, à Pau, à La Rochelle, ça va être génial.
Ça va être génial, évidemment, et notamment ce La Rochelle.
Quand on n'est pas impliqué comme ça, et quand on regarde sur le côté, ça va être génial.
Quand on est impliqué, on va poser la question à Laurent Travers dans un instant, ça doit être plus compliqué. Le Racing, qui depuis sa remontée dans l'élite en 2009-2010, n'a jamais manqué une seule qualification pour les phases finales. Ça fait 13 saisons d'affilée et un titre acquis en 2016 avec justement Laurent Travers aux manettes.
Et là, ça commence à sentir très très bon pour les joueurs du Racing. Terre qui va permettre au Racing 92 de remporter un bouclier de Brennus.
Gaël Ficou qui a ce ballon, la défense lyonnaise.
Faut pas faire de faute, il y a peut-être essai sur le coup. Que dit l'arbitre? Le ballon qui va être sauvé par les Lyonnais. Voilà le loup qui l'emporte, 20-14.
Victoire 37-28 pour les Bayonnais à 3 matchs de la fin. Ils ratent leur délocalisation, les Racingmen, et devront batailler jusqu'au bout pour rester dans le top 6.
Voilà, la sirène est dégagée dans la tribune ici de ce stade de la Baie des Champs. Victoire! Victoire très très importante du Racing 92 qui s'impose face à Pau. 24-15.
Voilà une victoire qui fait du bien, évidemment, celle obtenue par le Racing ce week-end sur la pelouse de la Baie des Champs à Auxerre face à la section paloise. C'était un match capital, évidemment, qui permet au Racing de continuer à espérer et de continuer à rêver d'une qualification. On en parle donc avec Laurent Travers. Bonjour, monsieur le président. Et ça en jette quand même quand on dit ça, hein. Monsieur le président, s'il vous plaît. Hein.
Ouais, ça fait drôle. Bonjour à toutes et à tous. Très, très, très heureux d'être parmi vous.
Eh ben oui, on est aussi ravis de t'accueillir. Tu connais bien les gens qui sont dans la place.
Je peux plus t'appeler Toto maintenant.
Toto président.
Quand même, grand président. On a eu longue histoire avec Laurent parce qu'on a fait quelques tournées avec les Babaz, l'Orient français, et c'était génial. Et voilà, donc
vous avez dû vous ennuyer, ouais.
Que des souvenirs extraordinaires. Franchement,
que des bons souvenirs et que des victoires.
Et que des victoires, oui, en Argentine, où c'était quand même dur d'aller gagner. Et partout, oui, c'est vrai, que des victoires.
Ouais. Et Wilfried a également quelques souvenirs avec Toto, tu peux nous en parler, Wilfried, hein?
C'est
ça remonte à il y a quelques années, ça.
Oui, avec Laurent Labitte, ils aimaient bien faire des petites surprises aux journalistes. Et bon, s'il vous arrive d'être invité à déjeuner par Laurent Travers, vous faites attention si vous allez aux toilettes et tout, parce que moi, c'était pas ça, j'allais interviewer des joueurs. Quand vous revenez, les jours d'après, vous découvrez des choses dans votre blouson, quoi. Des os de poulet, des salières, des choses comme ça. Parce que le travers est taquin.
Le voilà. Travers est taquin.
Mais ça, c'était l'ancien. Maintenant, président, ah ouais,
maintenant,
il fait
président,
plus ça.
Il fait plus ce genre ça de blague. Non, c'est fini, Laurent, ça.
Maintenant, j'ai une ligne de conduite et je m'y tiens, quoi. Je fais attention.
Fini la moutarde et le fromage blanc, ça c'était avant.
Voilà, c'est terminé.
Laurent,
il a mûri.
ça doit être ça. Président du directoire donc du Racing, tu étais déjà directeur général du rugby jusqu'à ces dernières années. Le terrain s'est petit à petit éloigné. Aujourd'hui, tu le vois de loin, ce terrain, ou tu as toujours l'envie, le besoin d'aller traîner au bord de la pelouse au quotidien?
Non, mais bien sûr que je le vois de loin, mais j'essaie de pas non plus être trop loin parce que l'odeur de la pelouse et l'odeur des vestiaires est vraiment nécessaire et je pense que ça a toujours été, que ça soit en tant que joueur ou après en tant qu'entraîneur. Donc, chasser le naturel, il est difficile et il revient au galop. Donc, sur ce plan-là, oui, bien sûr que j'ai pris d'autres fonctions avec un peu plus de recul, mais j'ai toujours à cœur d'avoir les sensations et toujours de renifler un petit peu les bons côtés de notre rugby, quoi.
Mais il t'arrive, Laurent, de donner des conseils ou d'interférer dans le sportif?
Non, enfin, il m'arrive, bien sûr, parce que quand Stuart me pose des questions, je suis transparent, total avec lui, donc on échange énormément là-dessus. Après, je voudrais pas et je ne veux pas faire ce que j'aurais pas aimé qu'on me fasse. Il faut savoir rester à sa place et je sais très bien que quand on est responsable et manager d'une équipe, c'est pas toujours les conseilleurs les bons payeurs. Donc sur ce plan-là, il est important que voilà, je puisse rester vraiment dans ce qui m'appartient, ce qui est important pour la vie de l'équipe, que ça soit les agents, les joueurs, la composition bien sûr, l'organisation du club. Les partenaires, mais aussi justement tout ce qui est la vie du staff. Donc il y a pas mal de boulot, donc je laisse le soin à Stuart de mener à bien notre équipe du Racing 92.
Parce qu'il faut préciser aussi que vous avez un jeune staff d'entraîneurs, hein, que ce soit les Michalak, les Nyanga, même Dimitri Zarzeski qui n'est pas très vieux aussi en carrière dans ce métier. Donc c'est important de les encadrer. Alors tu es dans le casseur d'expérience, toi aussi. Est-ce que justement il y a un rôle d'accompagnement aussi un peu?
D'accompagnement, voilà, on essaie de discuter, d'échanger énormément. C'est aussi à travers les différentes expériences que l'on a pu connaître tout au long de sa carrière, que ça soit bien sûr pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs. Moi aussi, j'ai débuté. J'aimais qu'on puisse me conseiller, qu'on puisse me dire des choses. Après, j'en tenais compte ou j'en tenais pas compte en fonction de ma vision, mais aussi de ma personnalité. Et donc, s'ils sont demandeurs, on le fait. Par moments, on échange aussi. Mais c'est aussi le rôle de Stuart. C'était son choix. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. Que ça soit Frédéric, Joro Kosoko, Frédéric Michalak, Dimitri. Donc, c'est des gens qui ont vraiment envie. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, Yannick qui était avec les espoirs. Je pense que c'est vraiment quelque chose de positif parce que c'est aussi des anciens qui sont là pour justement continuer à cultiver et mettre et amener tout ce qui a été mis au niveau du club, tout ce qui est fait au niveau du club et on en est très heureux.
Il y a la volonté au Racing de faire un peu comme fait le Stade Toulousain, c'est-à-dire d'avoir un staff composé essentiellement d'anciens joueurs du club pour essayer de donner une image, une culture et encore
identité,
plus
ouais.
Une identité plutôt à ce club.
Mais l'identité, on le sait tous, l'identité est encore plus dure lorsqu'on est dans le Racing 92. Pourquoi? Parce que c'est Paris. Quand vous êtes dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus facile parce que la culture est déjà rugby. Nous, en plus de ça, on n'a pas une ville, c'est un département, c'est une région qui est derrière. Et donc, à partir de là, ça devient encore plus compliqué, mais aussi c'est ce que l'on veut faire. C'est pour ça qu'on est très attaché à notre département, très attaché à toutes les communes qui appartiennent au 92, de façon à développer notre côté identitaire. Après, vous savez, Toulouse, pour ressembler à Toulouse ou pour ressembler à d'autres clubs, c'est faire du copier-coller, ça ne sert jamais. Il est important de s'en inspirer, mais après, ce qui est surtout essentiel pour le Racing 92, c'est d'avoir notre propre culture, notre propre façon de faire. Et alors, je sais que par moments, on peut être critiqué sur certains points, mais quand on est critiqué, c'est qu'on est jalousé, et quand on est jalousé, c'est qu'en quelque part, on donne envie, et il y a des côtés du Racing que voilà, qu'on veut continuer à cultiver, et que ça soit justement d'être peut-être différent des autres.
Moi je trouve que dans le temps, Laurent, je trouve que ça a perduré, parce que moi, j'ai cette image du Racing qui reste intacte, et je crois qu'aujourd'hui, vous fidélisez bien votre public, les gens qui viennent vous voir, de plus en plus nombreux, non, il me semble. Donc, et puis le Racing, c'est quand même au-delà d'une identité, c'est une culture quand même. Ça date.
C'est vrai qu'il y a une vraie identité à ce club.
Oui, il y a une identité, mais
les couleurs, tout le monde connaît les couleurs du Racing. Tout le monde connaît un peu l'histoire de ce club.
Et alors, je parle de jalousie, effectivement, mais ça a toujours été jalousé le Racing. Moi, la province a jalousé le Racing, mais en même temps, c'était un peu. Je t'aime moi non plus, Laurent, non?
Oui, mais parce que c'est le côté... Alors pourtant, je suis issu du monde, que ce soit agricole et de la campagne, etc. Mais c'est justement, j'ai été attiré aussi par, bien sûr, la culture du club. On sait aussi qu'il y a ce côté, les couleurs, mais aussi l'école relevée, le nœud papillon, ainsi de suite. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et justement, il ne faut pas s'en détacher. Et au contraire, il faut que ça soit à nous de le développer, qu'on soit fiers de ça. Et il est bien qu'on soit différent aussi des autres et de mettre le costume ou de mettre le blazer pour aller sur un terrain et en dehors, qui est ce côté aussi, ce qu'on appelle la classe. Et bien justement, je pense qu'il est important qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça perdure.
Alors, il y a une grosse identité, il y a une grosse culture, mais en ce moment, il n'y a plus de terrain, quoi. Est-ce que vous êtes obligé d'aller... Alors là, c'est même plus la région Île-de-France, vous êtes obligé d'aller à Auxerre, à l'Abbé des Champs, qui là aussi est un stade mythique. Mais enfin, c'est quand même pas tout près du 92. Laurent, comment vous vivez ça, vous? Alors, on le rappelle, le terrain de la Défense Arena est évidemment une salle de spectacle dont le président a envie de faire autre chose que simplement un terrain de rugby, un stade de rugby. Mais ça vous oblige, vous, à vous déplacer dans des endroits qui ne sont pas vraiment faits pour ça. Comment vous vivez? Est-ce que c'est un handicap aujourd'hui pour l'équipe?
Non, parce que ça serait trop facile, bien sûr, d'aller trouver les excuses et de dire que ça vient... Et je dis ça parce que j'ai été confronté, j'ai joué une demi-finale de Coupe d'Europe à Lens contre La Rochelle, ainsi de suite. Donc, non, ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce que j'ose dire, c'est qu'on est différent et il faut l'accepter. Et cette différence, je veux qu'elle perdure et on veut... Alors, pourquoi? Parce qu'à un moment, on a quand même la chance d'avoir... que ça soit le propriétaire du club, M. Lorenzetti, et le groupe avec M. Lorenzetti, toute la famille, de pouvoir avoir un club qui justement, tous les ans, s'est qualifié depuis 10 ans, a joué, on le sait, beaucoup de quarts de finale, 10 demi-finales, 4 finales. Ce n'est pas par hasard sur la durée de pouvoir... donc, c'est lié à tout ce qui a été mis en place, que ce soit les infrastructures, l'outil, les hommes. On a l'outil et les hommes. Et après, bien sûr, que pour l'équilibre... On est dans un monde professionnel, il y a un côté aussi financier. On sait aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui arrivent à vivre grâce à des présidents qui alimentent le club. Et donc là, ce qui est fait, ce qui est tout mis en œuvre au niveau du Racing 92, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Et donc, Paris La Défense Arena en fait partie. Là, malheureusement, actuellement, on était... Pourquoi? Parce qu'on a la chance, en plus, d'avoir les Jeux Olympiques dans notre maison.
Là, c'est les JO qui font que l'arène n'est pas disponible.
Et de pouvoir aider le pays à pouvoir justement recevoir les Jeux Olympiques et que ça soit la natation à Paris La Défense Arena, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, quand vous avez Taylor Swift, de pouvoir recevoir Taylor Swift et qui va amener aussi au niveau du groupe quelque chose, je pense que tout le monde rêve de ça. Donc on le sait, quand on est au Racing 92, on connaît cette difficulté et je peux vous dire que le club travaille de façon à pouvoir trouver un équilibre, que ça soit financier et sportif. Et donc on travaille d'arrache-pied pour que justement ça puisse dans très peu de temps trouver la bonne solution et la bonne carburation sur ce plan-là.
Il n'y avait pas une solution d'aller jouer à Jambouin, ou c'était impossible, c'était trop cher.
Jambouin.
Jambouin. Je peux pas.
Mais
ne dis pas que des bêtises, ça a été étudié, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais bien sûr.
Quand même, pourquoi le Racing n'est pas joué Jambouin? Je trouve ça incroyable de ne pas se poser la question.
D'un point de vue image, tout de suite, on pense à... Non, mais on pense tout de suite.
C'est fini.
vision
en parler,
de
Laurent.
C'est terminé,
il va,
cette histoire.
Il va en parler,
tu,
Laurent, mais...
Tu préfères pas jouer à jambes moins pour ton public qu'à Auxerre, à la Baie des Champs?
Ah oui, non, ça, mais quand, non, quand mais tu dis ça,
sans doute,
tu arrête, Denis, quand tu dis ça, tout de suite, on dit, on a eu la même réaction avec Christophe. Ah, un jambon, le stade français, c'est pas les meilleurs amis du monde.
Mais quand je t'envoyais l'aviron bayonnais jouer à Aguilera,
on va laisser répondre.
On
va laisser répondre Laurent, mais ça a été étudié, donc on va laisser répondre Laurent.
Vas-y.
Non, non, c'est que après tout s'étudie, mais ce qui est important, c'est que d'aller à Auxerre, sachez une chose, c'est qu'on en est très 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 heureux. Alors bien sûr qu'il y a eu la défaite, mais qui aurait dit qu'on aurait peut-être pas perdu, on aurait peut-être perdu aussi à Paris la Défense Arena. Il faut rester là-dessus, il n'y a aucun souci, mais par contre, on a été très très bien reçus, on a mené le rugby en Bourgogne, en plus ça permettait, on a fait plus de 14 000 ou 15 000 personnes à chaque match, ça a été une belle fête. Alors bien sûr qu'il y a eu une défaite, mais sur ce plan-là, ça a été une belle réussite. Alors, je sais que c'est difficile pour nos partenaires. C'est difficile parce qu'il y a à peu près une heure et demie de voiture. Mais vous savez, des fois, quand on est dans les bouchons parisiens, alors je suis bien placé pour vous le dire actuellement, des fois, on met plus d'une heure pour faire 10 km. Donc, là-dessus aussi, il faut rester toute raison gardée. Et je pense que c'est bien aussi que l'on puisse continuer à aller montrer du rugby dans des zones où peut-être qu'il y en a un peu moins.
Juste une question, Christophe, j'en profite bien qu'on sûr, est sur le sûr. Stade pour se projeter, parce qu'on entend beaucoup de choses, Laurent, concernant les mois qui viennent, le fait que vous allez potentiellement réinvestir Colombes à un moment, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il en sera exactement? Et dans cette question, Laurent, vous avez quand même eu à la défense quand on parle d'identité, on parle d'identité de jeu avec le synthétique, hein, un jeu assez fait pour ça. Et est-ce que c'est pas problématique de changer de stade parfois, justement, quand on a travaillé et eu des résultats comme ça? Voilà, j'ai deux questions
alors,
en une.
Alors, déjà, la première, qu'on soit en train d'étudier, je peux vous dire que oui, le club regarde plusieurs solutions, mais c'est Colombes et d'autres endroits, donc je ne peux pas en dire plus, mais il y a d'autres endroits qui sont et qui seront très proches aussi de la région, enfin, ou de Paris, puisqu'on fait partie de la région, puisqu'on nous
a... Tu es là pour tout dire, quand même, Laurent.
On sera toujours dans la banlieue. Et donc, sur ce plan-là, il y a pas mal des choses qui sont en cours de... Mais aussi, n'oublions pas que la majorité des matchs se feront à Paris la Défense Arena. Donc, au lieu de faire 3-4 délocalisations, peut-être par an grand maxi, eh bien, se feront peut-être soit à Colombes, soit autour de Paris, sur la banlieue de Paris, ainsi de suite. Donc, on regarde et on est en train d'étudier pas mal de solutions. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième, tu m'as dit...
Sur l'identité sur de jeu.
L'identité de jeu avec le synthétique à la défense. Ouais, et peut-être pas
sans
ailleurs.
Vouloir, actuellement, on s'aperçoit que si vous regardez le nombre de synthétiques qu'il peut y avoir dans le championnat, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'arrive toujours de plus en plus le problème de l'arrosage. N'oubliez pas qu'un terrain en herbe, mais ça demande énormément de quantité d'eau, que ça demande aussi énormément d'entretien, que ça demande énormément aussi d'engrais. Et donc, sur ce plan-là, je pense qu'il est important aussi d'en tenir compte et que peut-être de plus en plus, on se retrouvera confronté, enfin, où il y aura de plus en plus de terrains synthétiques. Alors, moi, je n'appelle pas un synthétique parce qu'on travaille énormément justement là-dessus pour que ça soit de plus en plus écologique et on est en train de regarder pour le remplissage qui soit fait avec du liège et de la fibre de coco qui soit 100% naturelle et qui demande très peu d'arrosage et d'entretien. Donc, c'est tout sauf négligeable aussi pour ce que l'on est actuellement et ce que tout le monde dit actuellement par rapport à la planète. Et je pense que c'est important aussi. Et après, pour revenir sur le jeu... vous savez, entre les terrains donc soft grass ou les terrains pelouses hybrides, il y a quasiment presque plus de différence. Ça va aussi vite d'un côté ou de l'autre, et donc le jeu ne change pas.
Dis-moi, Laurent, dans vos réflexions, il y a le Stade de France ou non?
Non.
Bon.
Vas-y, continue, Denis.
C'est une bonne question, parce que le Stade de France...
Oui, bien sûr, j'allais vous dire, cherchez, les gars. Il nous a dit dans la banlieue.
Non, mais je pose cette question parce que le Stade de France cherche un club résident.
Ah ouais, et puis, le Paris Saint-Germain cherche aussi à construire peut-être un stade, pourquoi pas avec...
Mais c'est pas une info, mais je demandais, mais c'est pas du tout...
Non, mais je le répète, on a une maison, c'est Paris La Défense Arena, donc il n'y a aucun souci là-dessus. On parle de 3-4 matchs, peut-être grand maxi par an. Donc avant de regarder tout est étudié,
Princes, alors.
On regarde On regarde tout et pourquoi pas. Je t'inviterai pour toi, moi.
C'est le jardinier du PSG qui va être content, là.
Ouais, elle est facochère, là, sur le terrain.
Alors, Laurent, on va parler de la saison du Racing. Ta première en tant que président du directoire. Pas de tout repos hein, cette saison avec pas mal de montagnes russes, des débuts fulgurants, une place de leader entre la 8e et la 13e journée, et puis quelques trous d'air, notamment en janvier, avec 5 défaites consécutives qui ont un peu entamé le moral et fait perdre plusieurs places au classement, et vous condamne justement à une fin de championnat éprouvante, et notamment ces derniers matchs samedi prochain. Il y a un peu de tension, il y a de la tension au Racing là depuis une dizaine de jours, une quinzaine de jours.
Non, pas de tension. On a connu, et ce qui est important, vous savez, alors je le dis et je vais encore me répéter, parce que quand on se regarde, on peut se désoler, mais quand on se compare, on se console. Et on s'aperçoit que dans ce top 14, eh bien, tout le monde... Alors maintenant, il y en a 4 de qualifiés, mais vous vous rendez compte, on arrive à la 26e journée, il y a encore la possibilité à ce que 4 clubs ou 5 puissent penser à la qualification d'être dans les 6. Donc tout rentre en ligne de compte, tout est important. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une pression, mais une pression positive. C'est pour ça, c'est la beauté du sport, et c'est pour ça qu'on aime ça, et c'est pour ça qu'on a envie d'être dans un club et justement d'entraîner ou de présider. Donc voilà, moi, que ça soit les joueurs, que ça soit les partenaires, que ça soit l'ensemble du club, on n'a qu'une envie, c'est d'en découdre et de faire ce qu'il faut pour justement à la 26e journée, eh bien, savourer et pouvoir obtenir un ticket européen et un ticket pour les phases finales et de pouvoir jouer un titre.
Comment vous expliquez la saison en dents de scie, ses hauts et ses bas? Alors évidemment, vous n'êtes pas les seuls. Hein. D'autres clubs connaissent des hauts et des bas dans une saison. C'est difficile d'être constant. Mais là, on est quand même passé souvent d'un extrême à l'autre avec le Racing cette saison.
Oui, oui, oui. Et c'est un constat et c'est la vérité. C'est quand on regarde, eh bien, ce qui est important, c'est de trouver les solutions. Donc j'espère que Stuart, vous savez, en a tout à fait conscience et il s'aperçoit aussi de la difficulté du top 14, que c'est un top 14 où il y a quasiment les 14 équipes qui peuvent créer des surprises à chaque week-end, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Et donc à partir de là, à part actuellement le Stade Toulousain qui domine vraiment le sujet, les autres, eh bien, on est capable d'un week-end sur l'autre de passer un peu à côté, parce que quand vous regardez le nombre de victoires sur les 26, c'est surtout ça qu'il faut regarder. On est pas mal de clubs à être à 13 victoires, à part les deux autres qui sont à 14, mais après ça se joue à 12, 11, 12, 13 victoires, donc à un match près. Donc l'inconstance, elle a été pour toutes les équipes quasiment, à part le Stade Toulousain et le Stade Français. Non, mais je dis ça parce qu'important, il est important de vraiment de prendre tout en ligne en compte. La Rochelle, par exemple, a gagné que 12 matchs, mais par contre, ils ont pris 7 bonus défensifs.
Ils ont gagné qu'un match à l'extérieur.
Et oui, et donc ils ont gagné moins de matchs que certains qui sont encore comme Perpignan qui a 13. Mais par contre, ils ont accroché toutes les équipes. Donc c'est pour ça que c'est un championnat où tout le monde a connu son lot de périodes difficiles, de périodes un peu inconstantes. Alors oui, on l'a connu.
Mais Laurent, on dit ça parce qu'ils n'ont jamais été leaders, La Rochelle. Parce que vous avez une période où vous avez été leader. Donc...
On dit ça encore plus du Racing parce qu'on a connu une période faste qui a été le début de saison, qui avait avec une certaine dynamique, qui fait que... derrière, on a marqué le pas et sur un moment, on a eu une période sur 14 matchs où on était à beaucoup plus de défaites que de victoires. Et à partir de là, ça nous a mis un peu le doute, ça a cassé un peu les jambes des joueurs, ça a cassé un peu la confiance du staff, ainsi de suite. Mais c'est justement dans cette difficulté-là qu'il faut retrouver les ressources et être capable de faire ce qu'il faut pour, comme je l'ai dit, pouvoir se qualifier dès samedi soir à 21h, sachant que l'idéal, s'ils étaient sympas, les Rochelais, c'est qu'on fasse un match nul. Parce que
c'est vrai, le match nul qualifie les deux équipes.
Je leur fais juste un petit appel, quoi.
Et puis moi, je le joue, et moi, je mets un petit billet, comme ça, je prends de l'oseille. Ouais.
Tout le monde s'arrange, quoi, en gros, c'est ça.
Non, mais, dis-moi, on peut parler quand même, j'aimerais revenir sur le jeu, sur votre jeu durant toute la saison. Je vous ai vu jouer plein de fois. On peut parler d'inconstance au niveau de votre jeu. C'est un peu le paradoxe du Racing de cette année. Où, de temps en temps, il y a des fulgurances où on voit des choses incroyables, notamment ce début de match contre Bayonne où on avait l'impression que vous jouez contre des juniors. Contre Pau, ce premier mi-temps qui est absolument incroyable. Et puis après, on retombe dans des travers. Comment tu expliques quand même cette inconstance-là ?
Alors, Denis, tu l'as très bien dit, et c'est exactement ça, tu as très bien résumé, c'est-à-dire que quand on voit la première mi-temps de ce week-end, tu te dis à 24-3 à la mi-temps, ou 24-6, tu dis, bon, mais là, il suffit de marquer un essai de plus, et ça y est, et tu n'arrives pas à le marquer parce que mais, je ne sais pas s'il y a un relâchement, comment on peut l'expliquer, et ça, c'est je laisse le soin à Stuart de vraiment l'analyser, d'en discuter avec les joueurs, avec son staff, ainsi de suite. Bien sûr que moi, j'ai aussi une idée là-dessus, c'est que on l'a connu, que par moment, on a toujours cette impression qui fait que ça va passer, qu'on va pas s'affoler, parce qu'on a des joueurs de talent, parce qu'on est en place. Et ce qui a été le cas contre Bayonne, c'est qu'il faut pas oublier que les équipes adverses savent jouer aussi au rugby. Et qu'elles aussi, elles sont capables de mettre en place du volume et que si tu leur laisses un petit peu.
Mais ça n'enlève pas le fait, Laurent, du relâchement défensif que vous avez eu ce jour-là, quand même.
Exactement. Exactement.
Non, mais je veux dire, on est obligé d'en parler parce que.
Qui est lié aussi peut-être à l'intensité que tu peux mettre. Quand on voit l'intensité qu'on met sur la première mi-temps et qu'on la met un peu moins sur la deuxième, eh bien ça ne pardonne pas parce qu'après tu relaisses. Tu sais, un moment, on le dit souvent, c'est voler la confiance, mais quand tu laisses l'opportunité à l'équipe adverse de reprendre confiance, de pouvoir dire, eh bien nous, on peut peut-être le faire, eh bien ça peut changer la physionomie d'un match. Et souvent, je pense qu'on laisse un peu trop par moment l'opportunité au club ou aux équipes adverses de pouvoir prendre le jeu à leur compte. Et ça, c'est ce qu'on doit être capable de vite corriger.
Est-ce que vos leaders sont en... Vous attendez plus de vos leaders par rapport à ça, que ce soit Gielficou, Siakolissi...
Là, je ne me permettrai pas, moi, de je laisse le soin à Stuart, et je l'ai dit tout à l'heure, et je ne vais pas l'appliquer. Il est hors de question que je parle de l'équipe ou de parle de tel ou tel joueur. Non, ça, ce n'est pas le rôle d'un président. C'est pas le rôle, ça, c'est le rôle de l'entraîneur, de faire ce qu'il faut, et surtout pas, en plus, à travers les réseaux ou la presse. Donc, à partir de là, on a une équipe. Nous, ce qui est important, c'est que l'équipe qui a été constituée, que ce soit du staff et des joueurs, c'est une équipe qui est faite pour gagner des titres et pour se qualifier. Donc, on va tout faire et on va tout mettre en œuvre, que ce soit d'en bas jusqu'en haut, pour pouvoir justement réussir notre objectif.
En tout cas, ce samedi, donc à Auxerre, eh bien le Racing a retrouvé des couleurs, avec, il est vrai, cette première mi-temps et cette deuxième qui ont été un peu différentes, mais la victoire a été au bout du compte, et ça tombe bien, après trois défaites consécutives, on va écouter la joie du capitaine Ciel et Blanc, Henri Charvancier, donc à l'issue de cette victoire face à Pau.
Bah, la satisfaction, on savait qu'on avait absolument besoin de gagner ce match pour continuer à espérer se qualifier. Donc on est très content de l'avoir fait, on sait que c'est pas forcément aussi acté. On aura certainement besoin de prendre des points à La Rochelle pour valider cette qualification, mais en tout cas on est toujours dans la course et je crois que c'est ce qu'il faut retenir cet après-midi.
Toujours dans la course, nous dit Henri Chavancy, effectivement. Wilfried, on va peut-être faire le point un peu pour savoir justement ce qu'il faut au Racing ou à La Rochelle et aux autres pour espérer se qualifier la semaine prochaine, parce que la dernière journée, on le disait tout à l'heure, va être tendue de ce côté-là.
Hein. Alors c'est vrai que le match La Rochelle-Racing, comme le match plus haut entre Stade Français et Toulon, est décisif, hein, puisque y a des concurrents directs qui se rencontrent. Pour La Rochelle ou le Racing, une victoire, évidemment, ils sont qualifiés. Et Laurent l'a dit, un nul aussi, ils sont qualifiés. Si jamais le Racing avait le malheur de perdre à La Rochelle, il serait bien inspiré quand même de prendre le bonus défensif, parce que le Racing a 3 points d'avance sur Perpignan qui va à Pau et sur Castres qui va à Bayonne. 61 pour le Racing, 58 pour Perpignan et Castres. Donc le Racing, en perdant avec 0 point, serait sous la menace d'une simple victoire d'un de ces deux. Avec un bonus défensif, ce serait différent, parce que à 62 points, à 4 points d'avance sur Perpignan et Castres, une victoire sans bonus de Perpignan ou de Castres ou des deux, et dans les cas d'égalité, le Racing est toujours devant. En cas d'égalité avec Perpignan, c'est le Racing qui passe. En cas d'égalité avec Castres, c'est le Racing qui passe.
Ça, et
en cas d'égalité,
hein,
voilà, à trois au classement, c'est-à-dire Racing, USAP et Castres, c'est aussi le Racing qui passe. Donc un point au minimum sera très important pour le Racing. En attendant, alors évidemment, Perpignan a pas gagné à Pau et Castres a pas gagné à Bayonne déjà, mais c'est vrai que au mieux, au pire, il faudrait une défaite avec bonus. Voilà, on l'a dit, un nul et ça passe, une victoire et ça passe.
Mais une victoire de l'USAP et de Castres avec bonus, ça change encore les choses aussi, hein, je crois. Hein.
Eh ben oui, à ce moment-là, parce qu'ils auraient 58, on pousserait le curseur 63. À 63.
Il y a une différence.
63,
entre,
donc c'est un danger.
Entre ces deux matchs, il y a une différence, c'est que Pau joue la 8e place qualificative pour la Coupe d'Europe et Bayonne n'a rien à jouer.
Bayonne n'a plus rien à jouer.
Oui, ouais. Oui, mais donc, Bayonne à domicile, dernier match en public.
Oui, mais tu sais très bien que le relâchement, voilà, mais après. Toto, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il y a un petit point de bonus défensif, voire une victoire.
Oui, ou un match nul, ça aurait été encore mieux, hein, Laurent.
Non, je ne me permettrai pas de recommencer. Mais, non, mais ce qui est sûr, bonus. C'est que, comme vous le savez tous, et on le sait, c'est que si, pour chercher à avoir un minimum, il faut jouer le maximum. Et le maximum, c'est d'y aller pour, sans se poser de questions et faire ce qu'il faut pour remporter le match, mais que ça soit à La Rochelle, que ça soit n'importe où. Quand on est à la 26e journée et qu'on joue une qualification, mais il n'y a aucune question à se poser, c'est faire ce qu'il faut pour gagner le match.
Avec un La Rochelle qui a été quand même impressionnant hier.
Ouais, et qui n'a perdu qu'une fois à la maison en championnat cette saison. Quand même.
Fait un gros match contre Castres.
Ouais. Contre Castres de Flandre. C'est pas vraiment l'endroit idéal pour aller gagner quand même, Laurent. Surtout quand, parce que eux aussi ont la pression. C'est-à-dire que la pression du résultat, ils peuvent pas se permettre non plus.
Ils sont qualifiés, non?
Non, ils sont pas qualifiés.
Non.
Avec un point, ils sont qualifiés. Donc oui, ils peuvent nous laisser la victoire.
Non, avec un point, ils sont pas qualifiés.
Je suis sympa, Laurent.
Bah oui, finalement.
Non, mais ils sont pas qualifiés en plus, oui, hein, parce qu'il y a une égalité avec
Castres.
Avec Castres, ils seraient éliminés, en fait. Et en cas d'égalité à 3, si les deux, ils seraient éliminés aussi. Ouais. Donc, il leur faut un nul comme vous. Voilà. Non, ça va se voir quand même qu'on le répète.
Non, il faut rien dire.
Faut pas le dire. Il y a personne qui
je veux le jouer, moi.
Personne nous écoute. Personne nous écoute. Personne. Non, c'est peinant.
Si, ils sont de plus en plus nombreux.
Bon, Laurent, je le disais tout à l'heure en préambule, jusqu'à présent, depuis la remontée du Racing dans l'élite, vous avez toujours joué les phases finales, hein, toujours. C'est 13, oui. 13 d'affilée. J'imagine que c'est quand même.
Oui, parce qu'il a dit depuis 10 ans, parce qu'il a pris que son bilan personnel. Tout à l'heure. Mais le Racing s'est toujours qualifié depuis 2009-2010.
Depuis la remontée, depuis que M. Lorenzetti a pris et qui est monté de Pro D2 en top 14, le club, que ça soit donc avec Pierre, avec Gonzalo, ainsi de suite, le club a toujours eu qualification pour les phases finales.
Donc ça va pas s'arrêter là, c'est pas possible.
Mais bien sûr que non.
Très bien. Alors 13 phases finales, je le disais, Laurent, mais un seul bouclier, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui s'en contenteraient, mais en fait, vous êtes le Racing, vous êtes un gros club avec un gros budget, avec de grosses ambitions, avec un président du directoire et aussi un patron, un actionnaire qui est très ambitieux. À quand ? C'est quand pour le prochain bouclier là ? C'est cette année ou il va falloir encore patienter quelques années pour les supporters français ?
Quand on peut prendre, il faut prendre. Donc s'il y a la possibilité de le prendre cette année, on le prendra, ce qui est sûr. Mais oui, vous l'avez dit, c'est que ce soit les partenaires, le propriétaire, tout le monde est ambitieux. Mais après, quand vous dites, et je le répète, vous savez, à un moment, vous parlez de budget. Mais le budget, n'oubliez pas que vous avez quasiment 12 clubs qui sont au salary cap. Et le salary cap, c'est ce qu'on appelle la masse salariale. Et quand la masse salariale, vous avez 12 clubs qui sont quasiment au montant de la masse salariale, ça veut dire que tout ça s'équilibre. Et quand on parle qu'il y a peut-être la possibilité qu'il y ait 10 clubs encore qui puissent être dans les 6, ce n'est pas lié au hasard. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des budgets qui doublent, mais la masse salariale reste la même. Donc à partir là, l'ambition, elle est pour tous les clubs du top 14. Et donc d'avoir la possibilité de se qualifier tous les ans, comme on a pu le dire depuis 13 ans, eh bien, ce n'est pas déjà, je peux vous dire que c'est le seul club, je pense, qui s'est qualifié tous les ans depuis 13 ans. Donc oui, bien sûr qu'il n'y a qu'un titre et on en est tout à fait conscient. Mais on est conscient aussi de la réussite de pendant 13 ans de se qualifier, ce qui n'a pas
été
fait.
Mais c'est pas assez pour
l'ensemble
vous.
Des clubs.
Bien c'est sûr, pas assez pour vous, tu penses.
Bien sûr qu'on a faim. Et non, bien sûr qu'on en veut encore plus. Mais quand je vous dis ça, c'est qu'il n'y a qu'un heureux et il y a 13 malheureux.
Oui,
et
puis il y a eu
donc,
quand même
plus de malheureux que d'heureux.
Il y a quand même eu
et
les
depuis
échecs.
10 ans, quand on regarde depuis 10 ans, c'est quasiment un champion de différents tous les ans.
Oui. À part Toulouse.
Non, je parle de champion.
Ah, de champion.
Champion de France, je pense que sur les 7 dernières années, c'est 7 clubs différents.
Ah bon ?
Toulouse la, la... Ah oui, oui d'année oui. sur année, mais Toulouse ah, l'a oui. gagné plusieurs
d'année
fois.
D'année sur année,
ah,
oui, d'année, d'année, d'année
sur année. Ouais. Mais il y a aussi les échecs en finale de Coupe d'Europe aussi qui auraient pu changer aussi la donne au niveau du palmarès quand même.
On a fait trois finales de Coupe d'Europe.
C'est énorme.
Et on les reconnaît. Mais voilà, mais bien sûr qu'on ne retient que le vainqueur. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais on n'oublie pas qu'on a fait quand même trois finales de Coupe d'Europe. Et quand vous faites trois finales, ce n'est pas lié au hasard. Quand vous êtes en demi-finale et que vous faites 10 demi-finales sur les 10 dernières années, ce n'est pas lié au hasard. Donc ça veut dire que oui, on manque la dernière marche, oui, on trébuche, mais vous y êtes. Et il y en a beaucoup qui vous regardent et qui sont devant la télé.
Mmh. Avec cette année, peut-être un déplacement au barrage à Bordeaux. Ça risque de...
Voilà, ça peut être à Bordeaux, ça peut être au Stade Français, ça peut être à Toulon.
Oui, oui, moi je vois plus Bordeaux, mais bon, on verra en reparlant.
Tu vois plus Bordeaux.
Ouais. Bordeaux, Racing en barrage.
Ça peut être le Stade Français aussi. Hein, si Toulon veut faire un coup au Stade Français,
Stade Français ne perdra pas. Ah, le mec il dit n'importe quoi.
L'oracle a parlé.
Non, je crains beaucoup cette équipe de Toulon parce que le Stade Français n'est pas très à l'aise chez lui depuis quelques temps. Franchement, ouais. Non. En plus, ça va être un match très, 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 très
sérieux. On sent que sur les dernières journées, et là on le voit, chaque match devient très, très. On le voit depuis les 5-6 derniers matchs et donc c'est très difficile pour tout le monde. Là, les pronostics, celui qui va faire 100%, bravo.
Il sera riche. Il sera riche.
Là, je dis grand bravo. Il faut le recruter parce qu'il aura de bonnes visions.
On va le recruter pour les paris RMC. Ouais.
Ah ouais,
Alors, je regardais le palmarès là, du championnat. Laurent, effectivement, il n'y a pas de champion qui se succède, sauf quand même Toulouse. De 2020, il n'y a pas eu de titre décerné parce qu'évidemment, il y a eu Covid. Mais c'est quand même les trois des quatre derniers boucliers sont quand même revenus à Toulouse. Et ils apparaissent une fois encore comme les grands favoris cette année. Enfin, je ne sais pas, pour vous aussi.
Mais Toulouse, c'est le PSG du foot. Et on va parce que la vérité, elle est là. C'est que Toulouse, c'est une institution, c'est quelque chose qui a été depuis des années. Il y a un vécu, il y a aussi une ville derrière, il y a une région, ils sont portés. Et puis après, il y a la qualité, que ça soit du staff, que ça soit des joueurs, tout est réuni. Donc on en est conscient. Mais quand vous êtes porté par toute une région, par toute une ville, mais par quelque chose qui date depuis... des années, quand vous rentrez dans le couloir et que vous voyez le nombre de titres et que le jeune, quand il arrive, il dit ben moi, il va falloir que je sois capable d'être digne. Et donc tout ça, c'est ça, quand on parle de la culture qui appartient au club, c'est pas que de dire c'est aussi grâce à ce qui s'est fait et que ça soit le nombre de titres, ainsi de suite. Et donc quand vous passez derrière certains joueurs, vous avez envie de montrer que vous aussi, vous en êtes capable. Et donc c'est tout un contexte, toute un environnement qui fait que ça oblige tout le monde, que ce soit les jeunes, les staffs, les joueurs, et bien à faire en sorte d'être encore plus fort tous les jours.
À la différence, tu dis le PSG du rugby, la différence c'est que le budget c'est le même que le tien, qu'il n'y a pas d'argent. Non mais c'est vrai, tu en as parlé tout à l'heure, le salarié cap, c'est le même. Qu'il y a quand même une économie...
Il y a d'autres points qui rentrent en ligne de compte, mais c'est pas facile à expliquer, c'est que tu es soumis aussi, suivant le nombre d'internationaux que tu as, tu as la capacité à avoir, et donc tu as des montants qui vont être assez importants de différence de budget qui font que ça te fait... Et alors là, c'est difficile
parce que la fédération paye en fonction des internationaux, c'est ça, Laurent.
Mais c'est-à-dire que ça te débloque un budget supplémentaire, donc tu peux avoir des fois un montant nettement supérieur pour ton recrutement qui fait que tu vas avoir 4-5 joueurs à fort potentiel supérieur par rapport aux autres.
Laurent, faut-il jouer la finale à Marseille ou faut-il leur donner le bouclier au Stade Toulousain?
Non, moi je pense que ce qui est important, c'est
c'était volontairement provocateur
directement, voilà, et puis ça ira très bien.
Non, mais c'est vrai, tu l'as dit, Christophe. Non, pour être plus sérieux, c'est vrai qu'leur maturité de jeu, de collectif, fait que c'est l'épouvantail XXL cette saison.
Oui, mais
sur un match,
tout le monde a envie de battre le Stade Toulousain. Et je le répète, actuellement, si vous voulez jouer 10 fois, vous allez peut-être le perdre 8 fois, ou 9 fois. Mais par contre, si vous le gagnez la seule fois, et c'est sur le moment de la finale, eh bien, tant mieux. Et donc, c'est pour ça que, à un moment, tout est possible. Et c'est ce qui fait la beauté de notre sport et du top 14. C'est que sur l'instant de la finale, vous pouvez avoir fait une grosse saison, mais ça n'empêche pas que vous pouvez être champion. Et donc, c'est ça qui fait que. Mais c'est la beauté du sport et c'est ce qui nous attire et c'est ce qui nous plaît.
Et il y a peut-être un autre Toto qui va être fatigué à force aussi, hein, Laurent. Hein. C'est Antoine Dupont qui a encore été énorme. On en parlera tout à l'heure avec le. Ouais. L'équipe
il est moins que moi. Ouais.
Hein
je peux vous le garantir. Moi, mais
il a moins de doutes que toi.
Là, j'ai comme eu l'impression qu'il y en a un qui marche sur l'eau et l'autre qui a tendance à être au fond.
juste un mot, Laurent. On a peut-être fini, on va peut-être le libérer. Je vais pas à Christophe. Hein, un mot sur l'adaptation et la saison de Siya Kolisi, qui est arrivé avec son deuxième titre de champion du monde. Voilà ce qu'il vous apporte. Il a dit l'autre fois qu'il n'était pas content de son match à Auxerre. Face à Bayonne, mais voilà sa saison dans l'ensemble, et parce qu'il découvre un championnat qui est fatigant, qui est voilà, qui il n'avait peut-être pas l'habitude de ça, et que voilà ce qui vous amène, est-ce que t'as côtoyé l'homme que tu attendais toute l'année, et ce qu'il vous apporte.
Mais complètement, voire plus. Je peux vous dire une chose, c'est que ce qui transparaît, c'est exactement, voire encore plus au niveau du club. C'est quelqu'un, n'oubliez pas, qu'il a réussi à revenir d'un croisé, ce que j'ai jamais vu avec moins de 4 mois, à faire une Coupe du Monde et d'être champion du monde pour la deuxième fois. C'est quelqu'un qui a vraiment une grosse personnalité, qui est à l'écoute et qui fait tout pour que l'équipe puisse justement performer. Mais comme vous le savez très bien et vous le savez tous, c'est grâce bien sûr à l'ensemble des leaders, mais c'est aussi l'ensemble des joueurs qui font que l'équipe est performante. C'est ce qui fait la beauté de notre sport et du rugby. Donc je peux vous dire une chose, c'est que lorsqu'on arrive après une Coupe du Monde, qu'on a gagné depuis 2 fois et que l'on voit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il donne pour le club, eh bien, je peux vous dire que oui, on en est très satisfait et on sait encore que la première année, c'est toujours difficile parce qu'il y a la barrière de la langue, parce qu'il y a le niveau du jeu, il y a aussi le top 14 qui est différent. Et je pense qu'on n'a pas encore la plénitude d'un Siya Kolisi et on en est convaincu, que ça soit aussi en termes de pouvoir justement apporter tout ce qu'il peut au niveau de l'équipe et de sa façon d'être leader. Et je pense que dans les années à venir, comme, alors là je vais faire un peu d'humour, mais comme le veine du président, eh bien, il va se bonifier au fil des années.
J'ai réussi à la placer. Il est pas mal le vin du président, ouais. Même sans quelques années supplémentaires. Merci Laurent, c'était un plaisir de discuter avec toi.
Merci à vous tous.
Un bon match évidemment samedi prochain, 21h05, avec toutes les autres rencontres. Hein. Les 7 matchs débuteront à la même heure, à suivre sur RMC évidemment. Mais ce La Rochelle Racing, c'est quand même, ça va être du lourd. Hein. Ça va être très lourd. Et on va vous faire vivre ça évidemment direct sur RMC. Merci Laurent. Bonne fin de saison.
Merci à vous. Félicitations pour l'émission. Et on va dire une chose, vive le rugby.
Exactement. Et plus d'os de poulet dans les vins des journalistes. Hein. Ça, c'est
Wilfried,
plus
aux autres, si regardez ça dans tes poches, il y a déjà quelque chose. Allez.
Merci Ciao, Laurent, à très bientôt. Avant de nous quitter, Denis, Wilfried, un petit mot. Donc, on l'évoquait à demi-mot de l'équipe de France de rugby à 7 qui a donc remporté hier le tournoi final du circuit mondial en battant l'Argentine en finale. C'est la première fois que les sétistes bleus remportent le circuit mondial. On est à moins de 2 mois des Jeux. Le timing, Denis, semble parfait quand même. Hein, cette équipe.
Est-ce que tu es un peu plus convaincu, Denis? Parce que j'ai sur des paris dans le Moscato Show, il me semblait que tu disais que ce serait plus dur que la France.
C'est pas fait, mais je veux dire, la confiance, on sait que ça fait faire de grandes choses.
Ils battent Fidji, Argentine, c'est deux grandes équipes en plus.
C'est ce que je dis que la confiance fait faire de grandes choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont emmagasiné le maximum de confiance, qu'ils savent qu'ils peuvent gagner. Alors qu'il y a un an, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient gagner un grand tournoi. Déjà, c'est énorme. Donc déjà, ils voient les Jeux Olympiques en pensant qu'ils peuvent gagner. J'ai vu que l'entraîneur le disait, on va être favori, carrément. Donc il a raison de se positionner.
Quand tu bats l'Argentine et les Fidji dans le dernier tournoi, avant
et
ça.
Et puis, c'est mettre l'ambition dans son groupe. Je trouve ça super. Et puis pour reparler de Dupont, parce que je pense qu'on va en parler. C'est un mec qui, c'est un mec à part et qu'on peut pas considérer comme les autres. Non, mais on peut pas le considérer comme les autres. Et Pierre Dorian qui m'a fait une réflexion ce matin, il me disait mais est-ce que c'est lui qui est très fort ou c'est les autres qui sont moins forts à 7?
J'ai dit non. Oui, mais c'était.
C'est lui.
Non, ce qu'il voulait dire, en gros, c'est que les joueurs qui vont à 7 sont même forts que les joueurs en règle générale. J'ai dit non, pas du tout. Je lui ai dit, il est plus fort que tout le monde. Et qu'il y en a c'est un. Ça, ouais. Et qu'il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Et je lui dis, c'est ça la différence. Parce que ceux qui vont à 7, qui ont un grand nom et qui vont s'essayer à 7, mais ils réussissent pas forcément. On l'a vu avec Sonny Bill Williams, il y a plein d'exemples de grands internationaux qui n'ont pas réussi à 7. Mais lui, voilà, c'est un extraterrestre. Moi, je le considère comme un extraterrestre. J'ai vu les matchs, la quart demi-finale.
Il a été utilisé avec parcimonie, hein, d'ailleurs.
Oui, mais quand il rentre,
tu vois
que lui,
il est en demi-finale, mais c'est dingue.
Il vient de jouer une finale de Champions Cup.
Ouais, c'est ça.
Il a fait la fête samedi dimanche, et bon.
C'est Popeye. Non, mais c'est Popeye. Il a bouffé des épinards sans arrêt. C'est incroyable.
Je sais pas si vous avez vu, il a mis une photo sur Instagram, Antoine Dupont. Il y a Yannick Noah qui a commenté, qui lui a dit, viens jouer Roland l'année prochaine. Parce qu'il pense que tout ce qu'il fait, il le réussit.
C'est génial pour le 7, génial pour l'équipe de France et pour lui aussi parce qu'il s'est régénéré, il a réussi à se régénérer en 7 et il a eu une grosse quand même vague de fatigue, on le sait, et que là il est reparti et Toulouse va en profiter forcément pour les demi-finales.
Exactement. Tiens, on va l'écouter Antoine Dupont, donc que Pierre Thévenet a rencontré à Madrid ce dimanche. Il se régale à 7 et ça le nourrit encore plus pour le 15. On l'écoute, Antoine Dupont.
Mais j'essaie de prendre tout ce que je peux prendre. C'est déjà beaucoup de plaisir. Je retrouve beaucoup d'enthousiasme aussi dans un jeu plus délié, plus instinctif. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de travail aussi derrière, de travail spécifique, que ce soit physique mais aussi technique. Donc j'essaie de prendre tout ce qui est à prendre, que ça puisse me resservir au 15. Et c'est vrai qu'on a parlé pas mal des rucks parce que c'est à 7, c'est hyper important. Comme par exemple les coups d'envoi où moi je suis moins investi, évidemment. Mais il y a pas mal de secteurs de jeu qui sont hyper importants à ce sport et qui sont évidemment utiles à 15.
Et c'est vrai qu'en grattage, il a fait des progrès grâce au 7. On l'a vu.
Il a pris conscience qu'il était monstrueux en grattage, sans chose qu'il ne devait pas penser à ça avant. Ouais. Non, mais ça, c'est incroyable. Mais moi, chapeau à lui parce que je trouve qu'il est extrêmement lucide, malin par rapport à sa carrière. Parce que c'est lui qui a choisi la 7. C'est personne d'autre. Hugo Mola voulait pas. Fabien Galthié ne voulait pas. Et lui, il a dit non, je vais faire les Jeux Olympiques à 7. Et je trouve ça.
Ah, puis il a
quand même
ça,
une réflexion, plus, une réflexion que, par rapport à sa programmation. Puis là, ouais. Mais non, moi, la chapeau.
Le seul regret qu'on puisse avoir, c'est qu'il soit tombé. Un boucher pendant la Coupe du Monde. Qui ait coupé son élan.
En venant au studio, je pensais à ça, figure-toi, dans l'ascenseur. Je me disais, mais la seule chose qu'il a manqué, en fait, c'est qu'il soit blessé pendant la Coupe du Monde.
Ah oui, mais ça.
Et s'il n'avait pas été blessé pour le quart de finale, je pense que la France aurait champion du monde, je pense.
Ah, c'est sûr. De toute façon, l'équipe n'est pas la même avec ou sans lui.
C'est fou parce que le match qu'il fait contre l'Afrique du Sud, il fait un bon match, mais c'est pas le sud du pont qu'on connaît.
Il joue avec un peu d'appréhension et c'est normal. Il a une plaque sur la figure et donc c'était pas évident. On connaît un peu son programme parce que là aussi, c'est un surhomme, mais à un moment, il va quand même peut-être finir par fatiguer. Là, j'imagine qu'il va être mis au repos la semaine prochaine, Wilfried.
Bah oui, mais en plus, il peut se tourner vers les demi-finales en fait maintenant.
Directement.
Toulouse est sûr d'être premier. Toulouse est sûr d'être premier.
D'accord,
maintenant.
Ils vont choisir.
Donc là, il va pas jouer le week-end prochain.
Et donc,
ils sont sûrs
d'avoir la première demi-finale le vendredi soir, 21 juin. Donc, il y a un match à Lyon ce week-end, il n'y a pas besoin de jouer. Il y a repos après. Il peut déjà se tourner. Il lui reste deux matchs, en fait, avec Toulouse. Demi et finale.
Non,
et
puis lui,
ça passe en demi. Mais bon.
Lui, il a fait du cardio. Il a fait avec le 7. Il a retravaillé cette semaine. Donc déjà, il a des acquis que n'ont pas forcément les autres. Après, c'est vrai que sur la longueur, je parle pas de Dupont. Je parle qu'il va falloir quand même les joueurs jouent quand même, hein, ce week-end déjà, ou pas ce week-end, mais l'autre, parce que les demi-finales, c'est dans trois semaines. Hein. Ouais, N'oubliez pas quand même que ça va.
Ouais, mais il y en a beaucoup qui ont joué 20 minutes hier, qui étaient sur le banc des remplaçants.
Mais tu peux pas ne pas jouer pendant trois semaines, c'est ce que je veux dire.
Tu peux faire jouer 20 minutes certains, Ntama qui a pas joué,
c'est
peut
ce qu'ils vont
faire. 20 minutes à Lyon, par exemple.
Je pense qu'ils vont faire ça, ils vont faire tourner, ils vont faire jouer par rapport à des joueurs qui vont jouer les demi-finales.
Ils sont confort quand même là-dessus. Quand ça va batailler certains sur la dernière journée pour se qualifier sur un barrage et arriver en demi après face au Stade Toulousain qui aura géré son temps de jeu comme ça, Toulouse est dans un confort absolu là pour le sprint final en top 14. Et je disais juste aussi, on a de la chance de à l'époque de Dupont de voir jouer Antoine Dupont, en fait, quoi. C'est génial tout ce qu'il amène. On a les yeux, j'imagine que vous comme moi devant la télé, quand vous avez vu le raffut qu'il a mis à l'anglais, qu'il l'a envoyé sur les fesses ou qu'il sait faire jouer à l'intérieur quand on l'attend en débordement pour une passe décisive, c'est le geste juste tout le temps temps et l'étincelle, enfin voilà, c'est fantastique.
Il a une compréhension du jeu qui est hors norme, voilà, comme pouvait l'avoir Platini en football ou Zidane, tu vois, c'est. Je pense qu'il faut, tu peux
c'est
le
vrai,
comparer.
Tu as raison, on a de la chance de vivre à l'époque, à époque, voilà, passionné de rugby quand on voit jouer Antoine Dupont qui ne sera donc.
Excuse-moi, vas-y, Philippe. Mais qui a pas été champion du monde. Je voulais te dire ce que tu disais par rapport à la dernière. On espère que c'est que reporté en Australie en 2027. Voilà, qu'il le sera à ce moment-là. Ce qu'il a l'acte manqué de France 2023, même si ce sera pas en France, eh bien, ce sera en 2027 et que la France sera champion du monde à ce moment-là avec lui, quoi.
Eh ben, on l'espère. On va tous croiser les doigts et on va tous souhaiter une bonne fin de saison à Antoine Dupont et à tous nos joueurs français, évidemment. On va assister à une dernière journée de Top 14 hallucinante samedi prochain, 21h05, tous les matchs en simultané. Avec Wilfried évidemment qui sera là, Denis qui sera pas loin. On sera tous pour supporter nos équipes et supporter le top 14. Merci les garçons.
Ciao.
Et lundi prochain, on débriefe tout ça puisqu'on aura les affiches des barrages de ce top 14. Bonne semaine. Ciao.
Salut.